Bonjour, bonjour. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Nous sommes le lundi 11 mars. Il est 21h13. C'est toujours Théo, votre host préféré de votre podcast préféré. Voilà, rien que ça. Bon, donc, vous le savez, si le podcast sort le lundi, c'est que voilà, le week-end a été assez agité. Et donc, j'ai pas pu vous délivrer le podcast un dimanche. Et il se trouve que je rentre aussi assez tard de ma journée de lundi. J'étais toute la journée à Lyon pour donner une petite conférence sur le personal branding qui a été filmé et qui sortira sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, vous n'en raterez rien. Et donc, il me reste exactement 2 heures ce soir pour honorer mon engagement de sortir un épisode de podcast. Donc, j'avais commencé à vous préparer une petite masterclass sur le personal branding en rapport avec ce que j'ai raconté un petit peu aujourd'hui. Mais en commençant à l'écrire, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup trop d'idées et que j'aurais bien pris 2-3 heures pour vous la préparer proprement. Donc, elle va sortir, mais pas aujourd'hui. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire de bien en 2 heures. Peut-être pas faire une masterclass sur le personal branding, l'écrire et la record, mais par contre, je peux faire un truc que je fais très mal d'habitude, c'est répondre à vos questions. Donc vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, donc je vais prendre ce petit temps que nous avons ensemble pour vous livrer quand même du contenu et répondre au maximum de questions. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas vu passer le sticker question qui passe en story tous les dimanches, le compte Instagram c'est théo.le.lyon. Bah voilà, vous pouvez me poser vos questions tous les dimanches, j'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Alors forcément, souvent à la fin du podcast, quand ça fait 2 heures que je parle, j'avoue que je vais un peu vite sur les questions et j'ai tendance à squeezer la section assez rapidement. Donc là, pas d'excuses, j'en ai plein. Je crois que j'en ai une petite vingtaine, 20, 25. On verra combien de temps ça dure, mais ça me permettra de faire un truc quali en quelques minutes. Voilà, donc ce sera un épisode hors série. Je vais prendre vos questions dans l'ordre. Je vais garder les marrantes pour la fin. Parce que là, la première question, c'est Sacha BLZ qui me demande jusqu'où va le PSG en Ligue des Champions cette année. Je répondrai à la fin. Voilà. Alors, on va prendre des questions sérieuses quand même. M35G. Je les découvre en même temps d'ailleurs. Je ne les ai pas préparées. On va laisser le freestyle parler comme d'habitude. Ça s'appelle Retout Mienne en roue libre. Donc, comment déléguer et choisir les bonnes personnes? Ah, donc c'est deux sujets différents déjà. Déléguer et choisir les bonnes personnes. C'est pas les mêmes qualités qui font que tu fais bien l'un ou l'autre. Et souvent, quand tu as choisi les bonnes personnes, c'est beaucoup plus facile de déléguer. Alors, je vous explique un petit peu le sujet de la délégation. Moi, j'ai eu un problème. J'ai un problème, c'est que la première recrue avec laquelle j'ai travaillé, c'est mon associé Paul. Et mon associé Paul, c'était tellement la bonne personne que je n'ai pas dû apprendre à déléguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis arrivé, je faisais des campagnes Facebook et je lui ai dit, bon, bah, écoute, voici ce que je fais plus ou moins, viens, on taffe ensemble sur ce client, blablabla, et après, c'est bon. Et d'ici, en quelques mois, il faisait déjà mieux que moi. Donc, c'est comme Naval qui raconte que le pire truc qui peut vous arriver financièrement dans votre vie, c'est de gagner au loto. Parce que toutes les mauvaises habitudes financières que ça va renforcer vous rendront, broke sur le long terme. Bon, bah, c'est à peu près la même chose, là. En gros, donc, j'ai pas dû apprendre à déléguer sur la première personne parce que justement, j'ai eu de la chatte. Voilà. Il faut être honnête, c'était pas des compétences en recrutement. J'ai eu de la chatte d'avoir cette personne-là qui était disponible à ce moment. Et donc, c'était quelqu'un avec lequel c'était facile de travailler. Donc, la délégation était assez facile. Donc, maintenant, déjà, comment est-ce qu'on délègue? Je vais prendre les deux sujets. Donc, je vais prendre d'abord déléguer et ensuite, comment recruter les bonnes personnes, choisir les bonnes personnes selon moi. Ça va pas être un tuto exhaustif, mais c'est les premiers trucs qui me viennent en tête à la lecture de cette question. Donc, comment déléguer. Déjà, je vais vous expliquer surtout comment ne pas déléguer. Qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter de faire? Alors, il faut à tout prix éviter de faire exactement ce que je viens de vous décrire. Ce que je viens de vous décrire, c'est déléguer en se débarrassant. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans mon aventure chez Kodak, et ça s'est souvent soldé par des périodes d'essai qui se rompaient, ou alors ça, c'est quand on s'en rendait compte assez tôt. Sinon, ça a été des ruptures conventionnelles. C'est qu'en gros, moi, j'ai toujours recruté. J'ai jamais eu de problème conceptuel avec la notion de délégué. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à lâcher du contrôle. Moi, je suis pas un contrôle freak. Justement, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'avais pas un quality control assez haut qui me donnait envie de m'assurer que ce que produisait la personne que j'avais recrutée était à la hauteur de ce que j'aurais pu produire moi-même. Donc, en gros, je me suis beaucoup délégué en me débarrassant, en disant bon bah écoute, tiens, tu es head of sales, c'est ton sujet, débrouille-toi. Ce truc-là ne marche pas. Parce que ça, en fait, ça renvoie un mauvais message. Ça renvoie le message que tu penses que tu donnes de la responsabilité aux gens. Je me cachais derrière ça, je me disais, bon, bah, écoute, en fait, en donnant full enfin, pas ownership, mais liberté, disons, c'est ça. Liberté de décision à la personne à laquelle je passe, elle va se sentir en confiance. Et finalement, elle va être dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur d'elle-même, parce que je vais pas avoir à lui imposer quelque chose. Donc, je me disais, c'était vraiment l'inverse du micromanagement. C'était ce que je faisais. C'est le no management, quoi. Donc, en gros, je te file le truc, tu te débrouilles et tu fais ton truc bien. Sauf que ça envoie aussi un petit message latent et sous-jacent inverse, c'est que les sujets importants, tu t'en débarrasses pas. Donc, quand tu donnes de cette manière-là à quelqu'un un sujet, en fait, ce que tu lui dis, c'est OK, certes, fais ce que tu veux, mais finalement, ça veut aussi dire que bon bah c'est pas très important. Donc en fait, en donnant comme ça un sujet à quelqu'un, tu lui donnes pas beaucoup de considération. Tu lui dis écoute bon vas-y occupe-toi de tel truc. Vous savez c'est comme quand on recrute un stagiaire pour faire le community management. Il y a beaucoup de marques e-commerce qui font ça. Et en fait pourquoi est-ce qu'elle recrute un stagiaire? C'est parce que pour elle estime que c'est pas très important. Elle recrutait pas un stagiaire pour faire la compta. Donc ce qu'il faut être capable de faire, c'est de toujours garder la notion d'ownership. Donc c'est-à-dire quand tu vas déléguer un travail, tu vas pas faire une liste de tâches, tu vas déléguer la responsabilité de certaines choses. Donc, tu vas dire, OK, tu es head of sales. Donc, c'est moi qui gérerai. Jusqu'à là, je t'ai recruté. De quoi est-ce que tu vas être responsable? C'est-à-dire, de quoi est-ce que tu vas devoir me rendre des comptes? Sur quoi est-ce que tu vas devoir me rendre des comptes? C'est-à-dire, tu vas être responsable des échecs, mais aussi des victoires. Et c'est là où vous venez compenser la délégation de la responsabilité avec l'assurance de la qualité de ce qui va sortir. Et donc là, en fait, vous montrez de la considération à la personne qui travaille avec vous. Et donc, tu lui dis, bon, écoute, tu as la responsabilité des chiffres de signature chaque mois. Première chose. Et ensuite, après, tu peux donner un certain nombre de tâches. Tu dis, bon, bah, écoute, moi, voici comment est-ce que j'avais l'habitude de donner mon meilleur pour atteindre les chiffres. Bon, bah, écoute, je faisais tant de trucs de prospection, je m'assurais d'avoir tant de trucs de contenu qui allaient, je relisais toutes les roadmaps et tout, etc. Et donc, finalement, je ne veux que tu me parles qu'en résultat sur cette métrique que je t'ai donnée, le nombre de signatures. Et puis après, bon, évidemment, quand vous rentrez un petit peu dans le détail, et souvent les premières discussions que vous allez avoir avec quelqu'un, ça va être justement sur l'affinage de la métrique dont il va être responsable, parce que il y a évidemment plein de facteurs dont pour votre head of sales, je pense au cas-là en particulier, pour lequel il n'est pas responsable. Il n'est par exemple pas responsable des leads que moi je vais produire en contenu. Donc en gros, tout le contenu que je vais produire et qui va générer des affaires, si demain c'est divisé par deux, c'est malheureusement pas la responsabilité du head of sales. Donc, et pour ça, en fait, il va falloir lui donner une métrique globale, mais. Et ensuite, lui donner un certain nombre de choses sur lesquelles il y a une prise plus directe. Donc, ça va être le nombre de deals générés en prospection. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Le taux de closing, par exemple, sur les deals qui viennent d'une certaine source. Donc, tu sais que d'habitude, les leads YouTube, on les close à 60%, je sais pas quoi. Bon, bah, écoutez, il faut que tu produises mieux que moi là-dessus. Et après, donc, moi, ce que je conseille, c'est bien de se rendre compte que plus vous allez déléguer à quelqu'un qui a un rôle managérial, enfin, disons un rôle à haute responsabilité, donc haut dans votre hiérarchie, plus en fait il va accepter d'avoir une métrique dont il est owner qui ne dépend pas uniquement de lui-même. Donc évidemment, le premier truc qu'on pourrait vous apposer, c'est bon bah oui, je suis pas uniquement responsable des signatures. Ok, mais en fait justement, je vous avais déjà expliqué ça en parlant de la notion de comment évoluer dans l'incertitude. Justement, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont récompensés pour les responsabilités qu'ils prennent, c'est ceux qui sont capables de se rendre responsables de choses malgré les conditions d'incertitude. Donc vous voyez, moi je suis tout en haut de la pyramide de Kodak. Pourquoi? C'est parce que ma responsabilité, c'est le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, vous imaginez bien qu'il dépend de plein d'autres choses qui, alors déjà, sont pas de mon ressort direct. Une connerie sur un client en fait perdre un bon à sa descente, c'est pas forcément une connerie qui a été faite par Théo, mais j'en prends la responsabilité. Donc j'essaie de remonter dans d'un échelon et je me dis, bon bah écoute, oui, comment cette personne a été recrutée? Est-ce que c'est une merde qui risque de se reproduire, etc. Ça, c'est pour les premiers facteurs. Et ensuite, il y a plein de facteurs exogènes à Kodak. Si le marché de la pub se porte pas bien, quand il y a eu iOS 14 par exemple, qui a été une mise à jour qui a fait beaucoup de mal aux agences, eh bien moi je suis quand même responsable. Je peux pas botter en touche et dire ah bah nique sa mère. Donc en gros, j'accepte de me rendre responsable de choses sur lesquelles je n'ai pas une prise entière. Et ça va en fait stimuler la créativité plutôt que l'exécution parfaite d'un process. En fait, quand je vous rends responsable du nombre de messages qui ont été shootés en prospection, c'est même pas le nombre de deals qui ont été shootés en prospection, le nombre de personnes que vous allez contacter dans le but d'avoir des rendez-vous. Eh bien, je vous invite à faire quelque chose de très processisé, de très machinal. Et ça, c'est pas, en fait, quand on donne des responsabilités à quelqu'un, on lui donne aussi la liberté de choisir le moyen qu'il souhaite pour atteindre l'objectif. Voilà. Donc ça, c'est sur la délégation. Ensuite, comment choisir les bonnes personnes? C'est un second sujet à part entière et je vais prendre première gorgée de cette fois-ci tisane. Hop. Je vais me faire des petites courses de trucs des marmottes, là. Ce podcast vous est servi par Tilleul Menthe. Je suis vraiment grand-père. Putain, j'ai que 26 ans. J'ai que 26 ans et je me tape des petites tisanes le soir. Et j'adore ça. C'est ça, c'est surtout ça qui est problématique. Comment choisir les bonnes personnes? Alors, vous savez, Je pense que c'est comme en amour. J'ai pas forcément de preuves ou de raisons de penser que la notion d'âme sœur existe. Je pense que tu peux tomber amoureux de plein de personnes différentes. Tu peux être heureux avec plein de personnes différentes à condition que tu le veuilles. Et à condition que tu réalises un petit peu moins deux choses. Que tu le veuilles, donc que tu mettes la discipline pour faire fonctionner une relation. Et ensuite, que tu aies quand même fait un petit travail d'introspection sur quel était le type de personne qui avait tendance à te rendre heureux, avec lesquelles tu avais tendance à avoir des bonnes collaborations. Et donc pour ça, c'est pour ça que, en fait, choisir les bonnes personnes, pour moi, c'est plutôt une invitation. Il n'y a pas de technique miracle dans les entretiens, de choses à demander, ou de façon de structurer son process pour limiter l'erreur. Il y a, en fait, plutôt des grands principes dont il faut s'assurer qu'ils sont respectés le plus vite possible chez des personnes qui vont rejoindre ton organisation. Et donc, parfois, tu peux le faire pendant le processus de recrutement, et parfois, tu as besoin de la période d'essai. Et parfois, tu vas avoir besoin d'un peu plus de temps avant de te rendre compte. Pardon. Donc, je vais peut-être vous traiter l'éléphant dans la pièce. En gros, comment ça fonctionne le process de recrutement chez Kodak? Il y a 4 entretiens. Le premier entretien avec ma DRH, ou une personne de l'équipe ressources humaines, dans lequel, voilà, c'est vraiment un entretien sur les valeurs, savoir que la personne a des compétences de base pour le poste. Donc, on ne va pas faire perdre le temps du manager en la faisant rencontrer en step 2, et qu'il y a un fit culturel. Donc, c'est, vous voyez, on parle en termes d'ownership, c'est-à-dire la DRH a la responsabilité d'envoyer des candidats compétents sur le papier et dans la culture au manager en step 2. Donc, le manager rencontre en step 2, là, il va rentrer plus en détail sur les compétences requises pour le poste. Donc, là, souvent, il y a beaucoup de questions. Nous, on parle beaucoup des expériences passées dans les entretiens, pour essayer un peu de démêler le vrai du faux. Ensuite, étude de cas. Donc là, étude de cas, c'est une simulation de travail. Et là, bon, on ne va pas créer des études de cas de toutes pièces qui sont des trucs j'ai dit simulation avant, mais en fait, ce n'est pas vraiment des simulations. C'est-à-dire qu'on prend vraiment des cas concrets qu'on pourrait avoir dans le travail. C'est-à-dire, demain, la personne est recrutée. Ça peut être un sujet qu'elle a à traiter dans les premières semaines de taf. Et on voit un petit peu comment est-ce qu'elle réfléchit, et ça donne une pseudo-idée de est-ce qu'elle fonctionne de façon un peu similaire à comment travaille l'équipe. Et quatrième chose, c'est un café avec l'équipe, ça c'est la nouveauté, on le faisait pas avec tout le monde, et ça permet juste de s'assurer que ça va pas dénoter, et ça c'est une autre façon de vérifier la culture, donc ça va pas dénoter avec la culture de la boîte. Il y a des gens qui sont très compétents, qui passent toutes les steps, et quand on les met dans un visio, avec des membres de l'équipe, et bien on se rend compte qu'il y a un truc sur lequel on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt, qui fait qu'ils parlent pas vraiment le même langage. Et parfois nous ça se voit, quand on a raté des recrutements, on voyait la façon dont les personnes s'exprimaient dans des messages Slack, juste du vocabulaire qu'a employé, des trucs qui te font sentir bizarre. Donc écoutez, moi je conseille beaucoup d'écouter le sentiment sur les personnes, au moins pour ne pas les prendre. Et alors vous faites rarement des erreurs, mais après c'est compliqué de le vérifier. Hein. C'est comme quand vous couchez votre main au poker et vous voyez pas la main de l'adversaire. Vous n'avez que le sentiment et la conviction d'avoir pris une bonne décision pour savoir si la décision était bonne. Mais donc là, il y a une citation qui dit que l'intuition est un très bon guide pour savoir qui ne pas prendre. Mais un très mauvais guide pour savoir qui prendre. Et pour l'instant, mon expérience a tendance à confirmer ce truc-là. Donc, choisir les bonnes personnes, c'est la première chose, c'est s'assurer. Je vous jure que c'est vraiment, c'est pas bullshit, hein, mais c'est un sujet qui est très culturel et qui, en fait, vous vous rendez compte, parce que quand vous faites l'analyse, après que vous avez un certain nombre de personnes, nous, ça fait 4 ans maintenant, donc on a un certain nombre de personnes avec lesquelles ça l'a pas fait, eh bien, vous êtes capable de remonter un peu dans le process sur où est-ce que vous avez merdé. Et vous vous rendez compte, et on se rend compte, nous, tout le temps, que c'est, en fait, les compétences, ça se vérifie assez facilement. C'est rare qu'en fait quelqu'un, ou alors quelqu'un qui te mytho pendant tous les entretiens, il te mytho pas très longtemps pendant la période d'essai. En fait, il va être face à un client, il va se faire enculer, ça va être très très vite vu. il n'y a pas beaucoup de place pour les imposteurs en termes de compétences, du moins dans une agence chez Kodak. Par contre, sur la culture, c'est là où ça prend un petit peu plus de temps de vraiment connaître les gens. Et parfois, en fait, t'as des personnes qui peuvent être dans ton organisation qui créent du stress. C'est-à-dire créer du stress, vous voyez, je vous explique tout le temps comment ça marche le stress. Le stress, c'est quand on essaie de tirer un objet dans deux directions différentes, et donc ça crée une tension, un stress, et ça le fait péter. Donc, et en fait, la culture dans une entreprise va tirer les gens dans une certaine direction, donc ça va être fuck the average. Donc en gros, tout le monde va être excellent, le meilleur dans son travail. Et puis si vous recrutez une personne qui aime juste le travail bien fait, il fait bien le travail, mais il cherche jamais à dépasser les standards de ce qu'on lui demande, eh bien, ça va tirer toute l'organisation vers le bas. Et c'est pour ça que Reed Hastings, donc le fondateur de Netflix, parle dans son bouquin de la densité de talent. Il suffit d'un mauvais élément pour que tout le monde se nivelle vers le bas. Vous savez, c'est comme la notion de goulet d'étranglement. Ça sert à rien d'avoir 10 machines qui sont capables de produire 100 tables par... Je vais avoir du mal à la filer cette métaphore pour que vous la compreniez tous. En fait, ça sert à rien d'avoir des machines hyper productives si vous en avez une qui est pas du tout productive et qui en fait bloque tout le reste de la chaîne. C'est exactement pareil dans une équipe. Donc en gros, de façon un peu pratique, comment est-ce que vous vérifiez la culture, les compétences et tout. Le truc que je vous conseille de vérifier qui vous assure de savoir que vous bossez avec les bonnes personnes, et ça, c'est très très lié au sujet de culture, parce que c'est ça que ça révèle finalement, le fait de savoir si une personne fit culturellement avec votre boîte. Déjà, il faut l'avoir écrite, la culture, c'est essayer d'identifier quels sont les intérêts profonds de la personne que vous recrutez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des certaines catégories de... En fait, ça rentre dans... Il n'y a pas des milliards de catégories. Vous avez les gens qui... Des gens rejoignent une entreprise pour une raison. Ça va être... Une partie, ça va être ce que vous lui vendez. Donc, il va rejoindre l'entreprise parce que, je sais pas, vous vendez un bon salaire. Il y a des belles perspectives d'évolution. Et après, il y a ce que lui cherche. Donc, peut-être qu'il rejoint... Nous, on a beaucoup ça. Il rejoint une entreprise remote parce qu'il a envie de quitter Paris et de s'installer à Lyon. On a eu pas mal de cas comme ça. Ils sont d'ailleurs des très bonnes recrues pour Kodak. Et donc, en fait, vous, voilà. Donc, la personne a des raisons. Il y a toujours une raison pour laquelle une personne rejoint votre entreprise. Et ce qui est piégeux, c'est que elle va mettre du temps à vous la dire quand bien même elle vous la dirait. C'est très, très dur de dire la vérité parce qu'en fait, on apprend. Il y a beaucoup, et ça, c'est la faute des grosses boîtes, c'est que les grosses boîtes construisent les process d'entretien pour que vous ayez de meilleurs résultats en leur mentant qu'en leur disant la vérité. Et donc, les candidats sont pas habitués à dire la vérité en entretien. Sauf que nous, le problème, c'est que les mythos, on les dégage. Dès qu'on a le moindre soupçon de mytho, on cherche pas à savoir si on a tort ou si on a raison, ça sort. Donc du coup, on essaie, voilà. Le but, c'est d'essayer de choper la vérité sur quelles sont les raisons parfois indicibles, celles qui sont inavouables et que dont parfois vous ne parlerez jamais avec les personnes et qui font qu'elles sont dans votre entreprise. Il y a des gens qui sont dans des entreprises pour gagner du statut. Ils veulent avoir des responsabilités, ils veulent avoir de la reconnaissance et ça, il faut le comprendre parce qu'en fait, derrière, ça va vous permettre de savoir si les moyens que va déployer cette personne pour atteindre son objectif personnel, parce que je suis quand même convaincu que chacune des personnes chez Kodak, même si elle a un intérêt pour le collectif et pour le camarade, et avant tout là, et c'est normal pour maximiser le retour qu'elle gagne de cette expérience Kodak, qu'il soit monétaire, aventure, etc. Donc il faut quand même savoir, parce que ça c'est le truc qui va rester en fait même dans les moments down. Dans les moments down, une personne elle va pas continuer à se battre éternellement pour vous si la boîte fait pas de croissance, que tu peux donner des augmentations à personne, etc. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui se barrent des startups quand les startups grossissent plus, et alors qu'elles faisaient les fanfarons, oh, la culture de boîte c'est incroyable et tout. Quand ça donne pas d'augmentation une année, il y a tout le monde qui s'en va. Donc il faut réussir à identifier quels sont les trucs cachés. Et vous avez même pas besoin, en fait parfois vous avez même pas besoin d'en parler. C'est pour ça que c'est important de savoir lire les gens. Il faut savoir selon ce qui vous a été confirmé par les actions d'une personne. Donc en gros, comment est-ce que vous voyez la personne fonctionner? Qu'est-ce qui la motive? Dans quelles conditions est-ce qu'elle a donné du très bon travail et pourquoi? Et comment est-ce que je peux trouver des facteurs communs entre les fois où la personne a fait bien son travail? Essayez de mettre le plus possible cette personne-là dans des bonnes conditions. Donc vous avez des personnes qui par exemple sont très intéressées par la reconnaissance et moins par la reconnaissance monétaire. J'en ai dans l'équipe qui veulent avoir des responsabilités. C'est ce qui les intéresse, pardon. Ils veulent un poste de management. Et j'ai un autre type de personnes qui vont sans arrêt négocier des augmentations, qui veulent pas plus de responsabilités, mais qui veulent plus d'argent. Alors, le problème, c'est que l'un vient rarement sans l'autre. D'ailleurs, un petit conseil que je vous donne aussi là-dessus, c'est que si jamais vous voulez négocier une augmentation, parce que du coup, moi, je peux vous donner le côté patron, expliquez toujours quelles nouvelles responsabilités vous allez prendre. Vous pouvez pas, c'est très rare qu'un patron vous donne une augmentation parce que vous avez bien fait votre travail. En fait, il vous a déjà payé pour que vous fassiez bien votre travail. Mais faut que vous lui donniez envie de vous payer plus en expliquant tout, pas forcément tout le travail que vous allez faire en plus, mais toute la responsabilité que vous allez prendre de façon supplémentaire. Vous allez lui délester d'une charge et donc en fait finalement il va vous donner avec grand sourire la rémunération supplémentaire que vous voulez. J'ai d'autres types de personnes chez Kodak qui ont par exemple comme motivation la passion. Ils s'en foutent de l'argent, ils s'en foutent de prendre du galon, mais ils veulent juste bosser sur des projets intéressants. Alors c'est pas pour autant qu'il faut faire en sorte de les payer le moins possible ces personnes-là justement. Le but c'est de vous assurer que parce que vous savez que cette personne-là va pas regarder ça, que la situation reste la plus juste possible pour pas qu'elle en souffre. Mais il y a vraiment des gens par exemple qui ne veulent pas plus de responsabilités, ça les fait chier. Il y a des gens chez moi, ils veulent pas d'alternant. Ils veulent pas prendre de responsabilités, ils veulent pas être manager. Et ils travaillent très bien. Et c'est totalement fine cette genre de situation. Ce qui est important juste c'est de se dire que il y a pas une one size fits all. Tout le monde ne veut pas la même chose d'une entreprise. Il faut essayer de savoir que veut la personne pour que vous fassiez en sorte que, par exemple, cette personne-là qui drive, qui fait bien son travail quand elle travaille sur des trucs qui l'intéressent, est-ce que j'ai la matière à lui donner des projets intéressants pendant longtemps? Et là, vous allez, si vous trouvez une réponse, donc moi j'ai plein de cas chez Kodak où c'est le cas, je sais que c'est là où on fait du bon travail. Voilà. Donc, en gros, identifier les intérêts cachés des gens, ceux qui parfois ne, enfin, ils oseront pas vous le dire, mais souvent, en fait, avec le temps, quand vous développez des relations de confiance avec les gens, ils finissent par vous le dire. Donc, c'est pour ça, ne les trahissez pas, ne les utilisez, enfin, n'utilisez pas le truc contre eux si jamais ils vous le disent. C'est un peu cruel. Et après, voilà, vous faites en sorte que ça colle avec les intérêts de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est, par exemple, il y a aucun problème avec le fait d'avoir des sales qui veulent gagner beaucoup d'argent. Ok, aucun problème. Dans ce cas-là, je vais te mettre un énorme variable qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Et moi, j'ai des gros objectifs à atteindre. Voilà, on va aligner les intérêts. Donc, les intérêts sont parfaitement alignés. Quand ton envie d'argent, c'est pas forcément de l'avarice, mais donc c'est ton ambition monétaire sert l'intérêt de mon entreprise qui est de signer plus de clients. Voilà. Et donc, moi, j'essaie toujours en fait d'avoir à manager le moins possible, parce que finalement les alignements d'intérêts font le travail tout seul. Donc si les incentives sont bien alignés, il n'y a pas besoin de prendre les personnes par la main. Elles savent déjà ce qu'elles doivent faire et elles ont du bon sens. Je veux mettre simplement les gens dans des situations où ils peuvent faire preuve de bon sens. Putain, j'ai pris 20 minutes pour répondre à cette question. On n'est pas rendu. Il y en a 20 des questions. Putain, ça va, je voulais faire un épisode court. Je pense que je vais aller moins vite. Enfin, plus vite sur les autres, pardon. Alors, bon, j'ai pas compris cette question, mais je vais quand même la lire pour que tu puisses la reformuler pour la semaine suivante. Guillaume RLM. Arrêtez d'avoir un Cantal tilt négatif. Bon, je pense que c'est une faute de frappe. Cantal, le fromage. Ouais, non, je ne vois pas de sens caché derrière la faute d'orthographe. De frappe, vous avez compris. Long story qui demande BGR, comment, ça veut dire bonjour, hein. Comment gagner en visibilité sur Instagram? Merci pour le podcast. Alors, c'est une question qui est très large. Et je réfléchis à un truc intéressant à vous dire sur le sujet. Donc, d'un point de vue purement pratique, si je dois prendre aujourd'hui les fonctionnalités qui permettent d'avoir de la visibilité sur Instagram, il me semble que ce sont encore les Reels qui permettent, qui m'ont toujours permis, moi, d'élargir ma communauté. La majorité des abonnés que je gagne sont par les Reels que je poste. Je suis aussi très fan des stories. Les stories qui font beaucoup grossir l'engagement. C'est une façon, en fait, aujourd'hui, quand vous prenez le paysage des réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'autres plateformes qu'Instagram qui vous permettent de partager avec aussi peu de friction comme ça. Donc, des trucs du quotidien. Je suis très fan et j'en mets pas mal. Et bonjour, comment gagner en visibilité sur Instagram? Alors, je vais faire un bet. Je vais penser, alors je ne te connais pas, tu t'appelles Long Story, je vais supputer que c'est pas vraiment ton problème. La plupart des gens qui m'ont posé cette question-là, c'est des gens qui avaient admis comme postulat indiscutable que avoir plus d'abonnés sur Instagram allait faire péter leur business. Donc la question, en fait, le truc qui me manque, Long Story, bah tiens, mais je pourrais peut-être aller voir ton profil. Vous me laissez un petit peu de temps, s'il vous plaît. Long Story, je vais aller sur desktop pour pas foutre le bordel. Donc souvent, en fait, les gens qui m'ont dit ça, c'est des gens qui essaient de trouver des hacks pour faire grossir leur visibilité sur Instagram. Et ils n'ont pas vraiment démontré la relation entre croissance Instagram et croissance de leur activité. Donc, j'aimerais déjà t'inviter, si jamais tu as posé cette question, à bien être sûr là-dessus. Donc, tu vois, Long Story, c'est quoi? 374 followers. Et donc, tu publies un peu des mèmes. Non, pas des mèmes. Des Fueling Entrepreneur Spirit with Motivational Content. Elevate your business journey with me. Donc, toi, ce que tu cherches, ce sont des hacks. Alors, la vérité, c'est que là, t'es pas du tout sur un compte personnel. Moi, je sais pas faire grossir des comptes entreprises parce que je sais pas édulcorer mon discours. Je sais pas le corporatiser. Je sais pas faire des trucs impersonnels. Je ne sais que parler des trucs que j'ai vécu. Si je devais dire un truc, souvent, moi, le problème que je vois chez pas mal de pages Instagram, et je veux pas me prendre pour un gourou d'Instagram, hein, j'ai pas 100 000 abonnés, et c'est ce que je constate aussi sur ta page, c'est que c'est trop similaire aux autres entreprises aux autres pages pour choper de l'attraction. En fait, aujourd'hui, si jamais ton compte avec le contenu que tu postes aujourd'hui comme ça chope de l'attraction, donc en gros, pour ceux qui le voient pas, vous pouvez taper un long story et allez vous abonner d'ailleurs si vous voulez donner du soutien à cette personne aussi, tant qu'on y est. Ce sont des citations, comme on en voit beaucoup. D'ailleurs, j'ai un peu de mal là, en fait, à même à saisir la ligne éditoriale. Je vois ta tagline, mais les posts sont pas forcément représentatifs de ce que je lis. En gros, c'est que voilà, c'est souvent que tu n'as pas encore trouvé ton unicité, ton facteur différenciant. Et donc, tant que tu n'es pas capable de répondre en une phrase à pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'abonner à ma page, eh bien, personne ne s'abonnera à ta page. Et en fait, tu te rends compte que les premières réponses que tu vas apporter, c'est bah, parce que mon contenu, il a de la valeur. Ok. Mais est-ce que quelqu'un, il suffit qu'un contenu ait de la valeur pour que quelqu'un s'abonne à une page? Non. Je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs contenus qui aient de la valeur. C'est-à-dire que le compte derrière soit intéressant et délivre sa promesse. Ok. Pourquoi est-ce que je devrais m'abonner à ce compte et pas celui des autres? Ok. Parce que j'en vois des tonnes. Donc, comme pourquoi choisir celui-là, etc. Et en fait, toutes les questions que tu vas poser, le pourquoi, va t'amener à, souvent, là, t'as pas trouvé ta patte. Je peux te le dire, t'as pas trouvé ta patte. Et aussi, tu n'as que 10 posts, enfin 8 posts sur ta page. Tu n'as pas le droit de demander comment choper de la visibilité supplémentaire si t'as pas posté au moins 100 trucs. Voilà, donc je suis désolé pour cette réponse qui est probablement un petit peu à côté de ce que tu attendais. Mais je te considère aussi, enfin, conseille aussi d'arrêter de... C'est une très mauvaise question, en fait, comment gagner en visibilité sur Instagram. Voilà. On passe à la question suivante. Ellie FRSL qui me demande mon avis sur l'exit. Alors, l'exit, ça veut dire quoi? Ça veut dire revendre ses parts à quelqu'un. On fait ça souvent pour sortir de son business et gagner de l'argent. Évidemment, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Pas forcément pour exit maintenant, mais quel est l'horizon d'exit? On parle surtout de ça, en fait. Quand on construit la stratégie d'une entreprise, on se dit, écoute, dans tant d'années, j'ai envie de la revendre à telle boîte. Et donc, je vais construire cette boîte pour qu'elle ait plus de valeur possible pour mon potentiel racheteur. Et c'est un peu toujours, selon les industries en fait, dans lesquelles vous évoluez, c'est un peu toujours les mêmes boîtes qui rachètent, et ils rachètent, vous connaissez un peu les valorisations, vous savez de quoi ils ont besoin, donc vous pouvez construire un business qui va bien les intéresser, et qui fera un joli, joli paquet cadeau que vous pourrez leur remettre pour un joli chèque, si tout se passe bien, d'ici quelques années. Le problème de ça, c'est que c'est pas très compatible avec la vision entrepreneuriale. Donc, pour refaire référence à la vidéo et au manifeste entrepreneurial, quand vous construisez votre boîte pour quelqu'un d'autre, c'est le premier problème. Elle est, par définition, elle n'est pas construite pour vous, donc elle a moins de chances de vous épanouir. Et donc, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Je construis Kodak d'abord pour répondre à mes envies court terme. Donc, est-ce que j'ai envie de faire et est-ce que j'ai envie d'accomplir, donc pour que ça fitte mon objectif de faire grossir une boîte, de vivre des aventures et tout, etc. Et donc, par exemple, un truc que je ne pourrais pas faire si jamais j'avais un horizon d'exit, enfin que j'avais construit la boîte pour quelqu'un d'autre, j'aurais pas dépensé autant d'argent dans les team building. J'ai pas besoin de le faire, ce truc-là. Donc ça aurait niqué la qualité de mon aventure. Enfin, pas niqué la qualité de mon aventure, mais au moins ça m'aurait invité à considérer d'autres choses dans cette décision-là et ça serait devenu un peu plus chiant. Et ensuite, donc voilà, moi j'ai choisi justement de construire Kodak sans horizon d'exit. Et c'est pas du bullshit, hein. Et ça veut pas dire non plus que je n'exiterai jamais. Deux choses me feraient certainement exit. La première, c'est si j'ai envie de faire vraiment autre chose encore plus que Kodak. Et donc pour ça, il faudrait qu'il y ait une réunion de... Quand même, faut qu'il y ait pas mal de choses qui se réunissent dans une nouvelle aventure et qui me donnent envie d'abandonner celle-là, parce qu'il y a aussi le coût de friction. Il faudrait que ce soit au moins deux ou trois fois mieux que ce que je fais là, ce qui risque peu de se produire, étant donné l'attrait que j'ai personnellement pour la production de contenu, pour ce que je fais, le marketing digital, etc. Enfin bref, pour ma position actuelle. J'ai construit mon taf sur mesure, donc vraiment que... Enfin, ça serait inquiétant si jamais je trouvais quelque chose de beaucoup mieux à côté, tout prêt à me recevoir. Et alors, donc, où est-ce que j'en étais au début de cette phrase avant de me perdre? J'ai construit Kodak pour sans horizon d'exit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, donc, ah oui, c'est ça, c'est la première raison, ce serait, et oui, et la seconde raison, évidemment, c'est, alors, je le crois parce qu'on me l'a dit, et j'ai envie d'être sage, et donc d'apprendre de l'expérience des autres. On m'a dit que tout le monde dit qu'il veut garder sa boîte jusqu'à ce qu'il voit un montant. Et donc ce montant, tu le connais pas avant de le voir. Ça peut être 1, 10, 20, 30, 50 millions, j'en sais rien. C'est vrai qu'en effet, je pense que s'il y a un chèque sur mon bureau, je vais prendre un truc absurde pour être sûr que ça sert cet objectif-là. Si je vois un chèque de 100 millions qui arrive sur mon bureau pour vendre Kodak, je déchire direct. Je vais considérer le truc, ok, 100 millions, est-ce que ça vaut le truc que j'abandonne? Quelles sont les conditions? Bon, je lirai toutes les astérisques du contrat. Mais en tout cas, ce qu'il faut juste dire, c'est, ça veut pas dire que je ne veux pas du tout exit ma boîte. Ça veut juste dire que le prix que j'accorde au fait de garder ma boîte est probablement bien supérieur au prix qu'on va vouloir m'en donner. Donc, en gros, on va le valoriser en multiple de l'EBITDA. Sauf que pour moi, enfin Kodak vaut beaucoup plus que mon EBITDA fois 10 quoi, qui est un peu la valorisation des agents. Mon EBITDA fois 8 fois 6 fois 10, vous avez compris. Ça vaut toutes les expériences que ça me permet de vivre, ça vaut le statut que ça me confère, ça vaut le fait que je puisse remplir mes journées de sujets stratégiques et à échelle assez intéressante, donc d'avoir une soixantaine de personnes. J'aime bien ce que produit Kodak sur ma vie. Donc en gros, une personne pour me racheter, il faudrait qu'elle me rachète ça. Et aujourd'hui, je sais que ça vaut très cher, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, pour l'instant, l'exit, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est pas un sujet court terme. Et j'ai pas envie de. Voilà, j'ai envie de prendre le moins possible, de décisions dans ma vie pour optimiser l'argent. Je trouve qu'à chaque fois, tu fais des sacrifices qui sont un peu chiants là-dessus. Quand tu as besoin d'argent, c'est jamais les moments où tu prends les meilleures décisions. Et donc, j'ai pas envie de. Qu'un montant me fasse tourner la tête ou de pas gagner assez d'argent avec ma boîte pour qu'un chèque tombé au bon moment me donne envie d'arrêter mon entreprise, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes hein, qui sont un peu dans la merde, ils sont fatigués, ils voient un petit chèque qui est inférieur à ce qu'ils avaient en tête pour leur entreprise, mais bon, ils le prennent parce qu'ils ont envie d'arrêter. J'ai toujours envie de me mettre dans une situation où je suis bien et de toute façon, c'est le business que tout le monde veut acheter, ce sont les business qui sont pas à vendre. Voilà, donc j'ai envie de l'optimiser pour moi. Alors, quel est mon avis sur toutes les startups déposent le bilan? Demande Fuchs-MP. Alors, la majorité des startups, en effet, ne marchent pas. Et c'est aussi parce qu'elles sont poussées à un niveau de risque qui est énorme. C'est-à-dire qu'elles sont construites pour soit super fonctionner, soit pas fonctionner du tout. Mais on oublie tout le nuancier qu'il y a entre les deux, entre une boîte qui marchouille, une boîte qui marche, une boîte qui marche très bien. Et les moonshots qui sont poussés par les VC. Donc toutes les startups déposent le bilan. En vérité, non, toutes les startups ne déposent pas le bilan. C'est assez facile à contredire, puisqu'il y a plein de startups qui n'ont pas déposé le bilan et qui fonctionnent aujourd'hui très bien. Et justement, c'est précisément, en fait, le problème, c'est que quand une fois sur mille quelqu'un trouve de l'or dans une rivière, tu vas avoir 100 000 personnes qui sont dans la rivière en train d'essayer de chercher une pépite d'or. Et bien, c'est exactement ça qui se passe avec les startups. La majorité des startups vont mourir. C'est pas pour autant qu'elles vont, mais elles ne vont pas toutes mourir. Donc en fait, j'ai pas forcément d'avis parce que toutes les startups déposent le bilan. J'ai pas besoin d'avoir d'avis dessus. Je peux juste utiliser la réalité pour dire que c'est faux. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas faire de startups. Ce qu'il faut, c'est juste maximiser le risk-reward ratio. Donc en gros, être sûr que tu sois. Donc aujourd'hui, si tu mets 1000 personnes à la tête de la startup que tu es en train de faire, pourquoi c'est toi qui vas réussir et pourquoi c'est toi qui vas devenir riche? Pourquoi est-ce que ta startup, elle a une très solide raison de réussir là où toutes les autres ont échoué? C'est un peu la même logique qu'en investissement. Je sais que, d'ailleurs, il y a pas mal de questions sur le Bitcoin. Je sais pas pourquoi vous pensez que j'ai de la légitimité à parler du Bitcoin. Je n'en ai pas. Et je connais vraiment rien. Donc, c'est comme les investissements en crypto. C'est pas parce que ça monte que tu vas devenir riche avec. En fait, ce qu'il faut te poser comme question, c'est quand tu achètes du Bitcoin et que tu prévois de devenir riche, c'est pourquoi est-ce que moi je vais devenir riche et tous les autres vont perdre. Quel est mon edge? Parce que vous savez que la majorité des investisseurs perdent de l'argent, 97%, je crois que c'est 96%. Donc en gros, il faut que tu arrives, il faut que tu aies. En fait, il faut que. Imagine quelqu'un dans sa situation qui est en train d'acheter du Bitcoin. S'il t'explique pourquoi est-ce qu'il va gagner de la thune, il faut que tu le crois. Il faut qu'il te donne des arguments solides. Et après, tu appliques exactement ce raisonnement à toi-même et tu te rends compte que, même si le Bitcoin monte, tu n'as probablement pas intérêt à en acheter parce que, en fait, c'est du gamble. C'est la roulette. Donc la roulette, c'est super quand tu tombes sur la bonne couleur, mais quand tu perds tout, tu comprends pas pourquoi tu as perdu et tu te rends compte qu'en fait, tu étais en train de jouer. C'est comme les paris sportifs. Voilà. Donc, question suivante. Instagram qui me dit que j'ai atteint ma limite de temps. Ouais, mais là, je fais un truc productif. Alors, ton point of view à propos de travailler dans les larges corpos versus start-up pour les jeunes diplômés. Alors, je vais vous parler déjà de mon expérience dans les deux choses. Donc, les larges corpos. J'ai jamais bossé dans un large corpo. J'ai jamais eu envie de bosser dans un large corpo. Mais j'ai énormément d'amis qui travaillent dans des larges corpos. Ce que je vois souvent, pour caricaturer et simplifier un petit peu le dilemme, c'est que plus tu vas rejoindre une entreprise qui est grande, plus la boîte est processisée. Donc, ça veut dire que plus il y a des rouages qui font tourner la grosse machine. Donc plus tu vas être mis dans une case, donc plus vous voyez les tafs sont standardisés. C'est pour ça que chez McKinsey, il y a des tu commences, t'es analyste, puis après tu passes associate, etc. Tout est standardisé parce que le travail, ça fait 100 ans qu'ils le font, ils savent comment il doit être fait. Donc ça veut dire que tu as une zone d'expression qui est toujours délimitée et qui peut être d'ailleurs plus ou moins grande. Hein. C'est pas parce qu'un travail est processisé qu'il ne vous laisse pas vous exprimer. Il faut bien faire attention à se dire que tu ne seras toujours efficace que dans les systèmes qui ont besoin du rouage pour lesquels tu as été formé. Donc par exemple, disons que tu rejoins une grosse entreprise qui code dans un langage en particulier, que tu es dev, eh bien, ton expérience n'aura qu'autant de valeur que la popularité du langage que tu utilises. Donc, en fait, tu peux être un très mauvais rouage pour une grande boîte et un très bon pour une autre. C'est pour ça aussi que les gens font des carrières. Les gens se tracent des carrières, c'est parce qu'ils font attention à, OK, là, je vais devenir le rouage de tel truc, mais ça va me permettre de devenir après le gros rouage de tel truc, etc. Mais finalement, tu les sors de leur système, du système dans lequel ils évoluent. Ils ne sont pas forcément hyper compétents. C'est pour ça que parfois, on est un peu surpris. Il y a des gens. Et notamment quand tu atteins les hautes sphères corporate, donc tu commences à avoir des grosses responsabilités dans des grosses entreprises, tu es très efficace dans un système donné, tu es très bon pour être un manager à haute responsabilité, mais c'est pas pour autant que ça fait de toi un très bon entrepreneur. Donc tout dépend de comment vous avez envie de construire votre carrière. Est-ce que la carrière dans une grande entreprise vous intéresse? Et d'ailleurs, je trouve pas qu'il faille la diaboliser, je trouve ça très très admirable en fait les gens qui jurent fidélité à une entreprise, qui sont très loyaux, et je comprends très bien que aujourd'hui, comme c'est de plus en plus rare, les entreprises ont d'autant plus tendance à récompenser ça. Quand vous êtes prêt à vous engager pour une boîte, eh bien, vous avez moins de concurrents. Donc ne négligez pas les carrières dans les grands groupes. Elles peuvent vous faire aussi, vous plaire beaucoup. Faut pas diaboliser. Je trouve que faut s'émanciper très très vite du manichéisme là-dessus. C'est pas bien ou c'est pas mauvais de travailler dans un grand groupe. Voilà. Et donc la partie pour les startups. Ce qu'il faut comprendre pour les startups, c'est que ce que vous allez travailler, c'est votre bon sens. Vous allez travailler votre débrouillardise. Donc, une expérience en startup aura très peu de valeur pour derrière se faire recruter dans un grand groupe. Donc, il faut quand même avoir une idée que si vous allez travailler en startup, soit vous y allez pour vous amuser, soit vous y allez parce que vous avez prévu de travailler plus tard aussi dans les startups. Et les startups aussi, c'est pas du tout comme les grands groupes. Les grands groupes, vous avez peu de chances de tomber dans une entreprise pas sérieuse. Travailler en startup, il y a un certain nombre de startups qui sont des fraudes, qui sont des boîtes qui ne verront jamais le jour, qui ne vivent que par la première levée de fonds qu'elles ont eu la chance de faire ou par des subventions de je ne sais pas où, et qui ne sont pas des entreprises, qui aimeraient beaucoup en être, mais qui ne décolleront jamais. Donc il faut que vous soyez sûr de rejoindre, en fait, il faut savoir pourquoi, toujours, la question c'est pourquoi vous rejoignez une boîte. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez envie de rejoindre une scale-up? D'ailleurs, start-up, ça veut tout et rien dire, hein. Les scale-up sont aussi très intéressantes, parce qu'elles commencent à être un petit peu processisées, elles ont toujours de la croissance, donc tu vis l'esprit startup, mais c'est moins le bordel. Est-ce que tu as envie de voir une boîte qui se lance? Auquel cas, tu vas forcément rejoindre une boîte qui a moins de chances de fonctionner, mais tu vas voir l'enfer du démarrage. Ça dépend en fait, il faut quand même avoir un petit projet un peu court terme de quel sera l'étape d'après. Tu vois. En gros, je fais ça dans le but de faire quoi? Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que j'ai envie de faire carrière dans ce truc? Ou est-ce que je suis en stage ou je fais une première expérience, j'aimerais bien travailler en startup. Mais dans tous les cas, je vous conseille de commencer le plus vite possible par le truc que vous avez envie de faire derrière. Si vous avez envie de monter une boîte, n'allez pas travailler dans une boîte dans le but de monter une boîte derrière. Montez une boîte, ratez-la et ensuite remontez une boîte. En fait, il faut bien se rendre compte que si vous voulez devenir fort en rugby, vous n'allez pas faire 3 ans de salle et ensuite faire du rugby. Faites 3 ans de rugby et vous serez meilleur que si vous avez fait 3 ans de salle. En fait, voilà, les sports. Bien qu'ils soient perméables, c'est-à-dire qu'ils cèdent les uns les autres, en termes d'efficacité, faire le sport que vous voulez faire directement, ça marche. Donc faites-vous une idée très précise de quelque chose que vous avez envie de faire, qui n'est pas définitive, vous y allez avec intensité, et vous essayez de valider ou invalider l'hypothèse, le plus vite possible. Voilà. On passe à la question suivante. Alors, Med Oussem A. Mon avis sur la phobie des défis judiciaires qu'un entrepreneur pourrait avoir. Alors moi, j'ai pas évolué dans des domaines entrepreneuriaux sur lesquels il y avait des défis judiciaires. Et en effet, ça me filerait des phobies aussi. Donc malheureusement, je pourrais pas t'aider là-dessus. Mustapha 22. Sur la prospection outbound en agence et tes apprentissages dessus. Bon. Kodak n'est pas une boîte d'outbound, mais on en fait. Ça veut dire quoi? Donc en fait, nous, on a appris à devenir sexy, donc à mettre des beaux vêtements pour que les gens viennent nous aborder. Mais en ce moment, on est en train d'apprendre justement à aborder les gens. Et si j'ai compris un truc, c'est que la prospection est toujours abordée par ses moyens. Donc on va vous apprendre comment faire des campagnes automatiques avec l'emlist, comment faire des systèmes de relance multicanal, etc. Et tout. Et en fait, c'est la même chose, c'est comme en marketing, c'est comme quand on fait des ads, c'est comme quand on fait des vidéos sur YouTube, on oublie qu'on parle à des humains. Et donc moi, je vais vous conseiller d'appliquer un conseil de, le conseil de Paul Graham, qui est « Do things that don't scale ». Tant que vous ne savez pas parler en one-on-one à quelqu'un et obtenir un rendez-vous à quelqu'un, n'automatisez pas une campagne. Et là-dessus, la meilleure façon de mettre votre cerveau à profit et de le rendre créatif sur comment obtenir un rendez-vous avec quelqu'un, parce que c'est ça que ça veut dire, la prospection, c'est, vous imaginez que vous avez un pistolet sur la tempe, vous savez, c'est un des modèles mentaux préférés, et vous n'avez pas d'autre choix. Et si demain, vous n'avez pas d'autre choix que d'obtenir une réponse au prochain message que vous allez envoyer, sinon la personne qui a le pistolet sur la tempe tire, vous envoyez quoi? Et là, vous vous dites, ok, j'ai vraiment pas d'autre choix, je suis obligé qu'il me réponde, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, il faut que je montre que je suis fiable. Il faut que je lui vende une proposition qui est tellement incroyable qu'il n'ait pas d'autre choix que d'accepter. Bon, alors, j'aurais peut-être dû le dire dans l'autre sens, parce que souvent, en fait, ce qui va venir derrière ça, c'est que, bon, bah, il y a plein de gens qui le font par message, mais le problème, c'est qu'ils ne montrent pas leur crédibilité. Donc, il faut que je, par exemple, que j'ai des références qui sont hyper pertinentes, des références clients très similaires aux clients avec lesquels je veux obtenir un rendez-vous. Il faut que je lui apporte, que je lui vende un truc qui est frictionless. Donc, ça veut dire que je ne lui fais pas perdre beaucoup de temps et je lui apporte un maximum de valeur en très peu de temps. Bon, salut, je te file 5 astuces de ton concurrent, je ne sais pas quoi. Je voulais te les partager. Et puis, si ça te plaît, moi, je serais ravi d'en discuter plus en détail avec toi, mais dans des cas, tu n'as rien à perdre. Commencez par ça et ensuite remonter progressivement pour voir ce qui est automatisable, ce qui ne l'est pas. Mais n'oubliez pas que vous parlez à des humains. Donc, c'est ça mon meilleur conseil. Mon avis sur les gourous LinkedIn. Waouh. Je consomme plus beaucoup de contenu LinkedIn, mais vu que j'en poste beaucoup, parfois je clique sur fil d'actualité et j'en vois quelques-uns. Moi, je ne consomme. La raison, en fait, voilà, je pense que c'est ce point-là qui est intéressant. Pourquoi est-ce que je consomme plus de contenu LinkedIn? J'aime pas cette plateforme parce que l'algorithme est hypocrite. Ce sont pas les gens, c'est la façon dont ils construisent l'engagement sur cette plateforme. Je vous avais déjà expliqué que sur LinkedIn, le problème, c'est que les gens, ils likent pas ce qu'ils aiment, ils likent ce qu'ils sont à l'aise avec le fait que les autres personnes sur la plateforme voient qu'ils aiment. Donc, ils vont pas liker des posts qui sont avec des opinions assez impopulaires. Ils vont liker des trucs en mode le management positif, l'inclusion au travail, la semaine de 4 jours, etc., qui sont des choses qui, bon alors, sont pas très risquées. C'est pas très risqué de liker un truc comme ça. Et ensuite, c'est pas dit qu'ils le pensent derrière. C'est juste, ils sont contents de savoir que de s'imaginer que les autres les voient en train de le penser. Donc la raison, le problème de tout ça, c'est que ça va en fait de pair avec les gourous LinkedIn. C'est-à-dire que les gourous LinkedIn souvent ont comme principal achievement d'avoir percé sur LinkedIn. C'est-à-dire que, et en fait, c'est plus ou moins ça qu'ils vous apprennent d'une façon ou d'une autre. Et je sais parce que j'ai percé sur LinkedIn avant d'être bon. J'étais très connu sur LinkedIn, en pub Facebook, en whatever, etc. etc. Et j'avais pas forcément des meilleures compétences que... Même, je pense que j'étais un peu le... J'étais pas très bon. J'ai mis du temps à devenir bon, ça prend du temps comme tout le monde. Et donc, vous laissez pas full, comme on dit, par un gros LinkedIn qui fait des likes. Déjà, c'est pas parce qu'il y a des likes sur un post que c'est intéressant. Même d'ailleurs, s'il y a vraiment une plateforme sur laquelle ça a le potentiel d'être l'inverse, c'est vraiment LinkedIn. Plus il y a de likes, moins vous devriez faire ce qui est marqué dans le post. Parce que ça veut dire que tout le monde est d'accord. Et LinkedIn, c'est une population qui est très très large. Je vous ai déjà expliqué ça dans le manifeste. Vous pouvez pas vous benchmarker avec la masse. Si jamais vous voulez devenir un entrepreneur, top 1%, entrepreneur, whatever, vous avez compris. Donc LinkedIn, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Donc mon avis sur les gourous LinkedIn, c'est que... réfléchissez à pourquoi. Pourquoi ils partagent. Pourquoi ? On a tous quelque chose à vendre, pas forcément une formation. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partagent du contenu parce qu'ils aiment, profondément ça. Parce qu'ils sont contents de partager des trucs. Et le problème de LinkedIn, c'est qu'il y a beaucoup, comme il y a la notion de personal branding, qui est genre un peu la porte ouverte à toutes les merdes. Parce qu'en gros, désormais, en fait, tu peux te cacher derrière le fait que tu passes une heure par jour à écrire en mode ah oui, c'est rentable pour ma carrière. Eh bien, vous avez plein de gens qui parlent pour ne rien dire. Ils n'ont rien à dire, mais ils doivent quand même faire un post par jour. Et du coup, ils finissent toujours par faire les mêmes posts. C'est-à-dire, j'ai posté sur LinkedIn depuis 30 jours, voici mes apprentissages, et tout le monde copie un petit peu les mêmes choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on devait classer les réseaux sociaux en termes de qualité de leurs créateurs, et donc de l'information qui est véhiculée, je mettrais LinkedIn tout en bas. Je ne connais pas pire. Peut-être en égalité avec... Non, mais TikTok, même sur TikTok, il y a des trucs intéressants. LinkedIn, je le mettrais tout en bas. Et c'est précisément, c'est pas la faute des créateurs, c'est parce que l'algorithme ne récompense pas les gens qui disent des trucs intéressants. Donc vous pouvez pas, en fait, c'est un peu piégeux comme plateforme, c'est que quand vous partagez sur LinkedIn, vous pouvez pas juger la qualité de ce que vous avez produit au nombre de likes que ça fait. Voilà, donc mon avis sur les gourous LinkedIn, j'ai pas de, ils jouent à leur jeu, hein, tout le monde. Enfin, ne détestez pas les joueurs, détestez le jeu, c'est tout. Donc si ils font des likes, c'est qu'il y a des gens qui likent. Donc c'est qu'il y a un public pour ça. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup à apprendre de ces gens-là. Méfiez-vous. Alors, quelle spécialisation de master marketing finance est la plus utile pour créer sa boîte? Aucune. Va vers celle que tu kiffes le plus et probablement celle qui est la plus sélective. De toute façon, quand tu sais pas, c'est toujours la règle dans les études. Quand tu sais pas où tu vas, tu prends la voie qui te ferme le moins de portes. Toujours ça, tu regretteras jamais d'avoir fait ça. Par contre, tu regretteras d'avoir été spécialisé dans un truc que tu kiffais pas trop. Enfin, une première aile, par exemple. Ça existe même plus, d'ailleurs. Donc, c'est des voies bizarres. Quelles sont les questions que tu t'es posées et qui t'ont fait le plus avancer? Demande Michael.bdn. Ouh là là, c'est une question pour se tordre le cerveau, ça. Questions que je me suis posées et qui m'ont le plus fait avancer. Ouais, alors. J'en ai plein. Hein. Potentiellement, je pense que si vous me laissez un petit peu de temps, mais on n'en a pas aujourd'hui. J'aurais pu trouver pas mal de trucs, mais là, je vais en dire une. En gros, c'est un petit exercice mental. C'est disons que demain, vous retirez totalement le facteur argent de votre vie. Vous avez vendu votre boîte, vous avez plein de thunes, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous devez occuper les 5 prochaines années de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Et en fait, la punchline à la fin de ce truc-là, c'est que la réponse à cette question, c'est probablement le truc que vous devriez faire dès maintenant. Vous devriez trouver un moyen d'arriver le plus vite possible à faire ça. Et souvent, vous n'avez pas besoin de vendre votre boîte ou gagner beaucoup d'argent. C'est ça un petit peu le mindfuck à la fin. Vous savez, c'est la fameuse métaphore de l'Américain qui donne un conseil au pêcheur, là. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Et qui lui dit, bon, bah, arrête de pêcher ton poisson, monte une boîte, et ensuite, comme ça, tu vas gagner plein d'argent et tu pourras passer du temps avec sa famille. Alors que le pêcheur, il passait déjà plein de temps avec sa famille quand il avait fini de pêcher son poisson. Donc, de manière générale, questionnez de façon toutes les voies qui sont préconstruites, tous les chemins dont il existe déjà une ornière. Ça fait penser à un sujet d'HEC que je vous avais peut-être déjà raconté, le sujet horrible d'HEC, c'est l'ornière trace-t-elle le chemin. L'ornière, c'est la marque qui est laissée par une roue de carrosse, je crois. Du coup, j'allais regarder à l'époque, mais peut-être que la définition est plus exacte. Peut-être un peu rendu flou dans ma tête. Mais en tout cas, tout ça pour dire que plus tu vas vers une voie standard par définition, moins c'est une voie qui t'est personnalisée, qui est faite sur mesure pour toi. Donc, faut pas. En fait, cette question-là, la réponse, elle ment pas. Donc, vous avez plus rien à faire de ça. Comment vous occupez vos journées? Et en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que vous vous dites, ok, je vais prendre un hobby, moi je sais pas, je regarde Netflix. Moi je vous assure que vous regardez pas Netflix pendant 5 ans. Donc vous regardez Netflix 2 semaines. Après vous en avez marre. Et ensuite vous vous dites, bon bah j'aime bien voir des gens. Ok, j'aime bien me sentir utile. Ok. Bah peut-être qu'il faudrait que je trouve un travail. Parce qu'il y a moyen de voir des gens tous les jours, enfin, de travailler avec des gens et de se sentir utile. Bon bah un travail ça marche bien quand même. Pour ça. Ok, parce que vous pouvez pas faire. Enfin, forcément, si vous faites le solopreneur à voyager aux quatre coins du monde et que vous pouvez plus passer de temps avec vos potes, c'est un peu chiant d'ailleurs. C'est pour ça que solopreneur, faut se méfier quand même, parce que ça convient pas à tout le monde. Et bien là, vous vous trouvez en fait directement, vous construisez une belle théorie de qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre temps. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Moi, je me suis posé cette question parce qu'elle m'a beaucoup fait avancer, et notamment, c'est ça qui m'a un peu ouvert la porte et qui m'a permis de regarder différemment un petit peu tout ce que j'avais construit avec Kodak et qui a donné lieu à cette fameuse vidéo là sur le manifeste entrepreneurial. C'est en gros, fais les trucs maintenant que tu aurais envie de faire dans 10 ans. Et avec une très belle citation d'Oussama qui a été prononcée dans mon podcast et qui fait des trucs incroyables de sa vie s'il ne fait pas des choses incroyables de ses journées. Wow, celle-là, elle tape. Je trouve que c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle qu'il a jamais dite. Optimisez votre court terme. Voilà. Donc, ouais, c'est la question qui m'a le plus fait avancer. Sur l'enrichissement de la connaissance, mon avis sur l'enrichissement de la connaissance, les aspects extérieurs à notre projet. Ah, j'ai un peu de mal à comprendre la question qu'a mis DSM, parce que tu peux la reposer pour la semaine d'après. Il y a Jules Palatin qui demande quelle est la trace blanche sur mon pull. Alors, ouais, les observateurs ont peut-être vu qu'en effet, il y avait une tache sur mon pull, juste en dessous du sticker. La trace blanche sur mon pull, je vous explique, ça va vous faire rire. J'étais, parce qu'en fait, je l'ai vu juste après qu'elle a été, qu'elle, bah, que la tache soit arrivée sur mon pull. J'ai emmené ce week-end ma grand-mère en week-end à Nantes. Donc, en gros, elle vivait à Nantes. On l'a rapatriée il y a 2 ans, là. Même pas il y a 2 ans, il y a 1 an, à Versailles pour pouvoir être plus proche d'elle. Et donc, je l'ai emmenée pour la première fois, elle est retournée à Nantes. Et quand je l'ai, on a passé le week-end, je l'ai ramenée. Elle était trop contente, elle m'a fait un câlin pour partir. Et elle a, en fait, j'ai découvert ça d'ailleurs. En fait, elle se met du fond de teint que sur la partie gauche du visage parce que, bon, je sais pas, il y a peut-être un peu plus, je sais même pas pourquoi, il y a peut-être un peu plus de rides que d'un côté que de l'autre, mais c'est vrai que tu, en fait, tu le vois quand tu la regardes. Et elle m'a fait un câlin, et elle a, en fait, comme elle est toute petite, elle a posé sa tête sur mon torse, enfin, sur mes pecs, quoi. Et donc, du coup, ça a fait cette fameuse trace, cette trace blanche. Voilà. Donc, c'est une marque de grand-mère. on avance. Comment obtenir ses 5 premiers clients obligés de passer par du gratuit? Merci. J'aime pas cette question. Pourquoi est-ce que je l'aime pas? J'ai ce sentiment qu'elle est étrange, cette question. Pourquoi? Comment obtenir ses 5 premiers clients? Mais en fait, pour moi, ça veut dire que tu te dis, j'ai une activité, il me manque que mes 5 premiers clients. En fait, les business ne commencent pas comme ça. Putain, j'ai trouvé, voilà, je pourrais répondre ça à chaque fois. J'ai trouvé, pourquoi ça me gêne? C'est parce que, en fait, ça suppose que tu as un business. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. Donc, tu ne peux pas obtenir des clients. Ton business commence à partir du moment où tu as un client. Donc, déjà, un client, c'est très différent des 4 d'après, des 10 d'après, etc. Et à chaque étape, ça devient de plus en plus dur. Enfin, forcément de plus en plus dur, mais ça change la signification. Donc, en gros, le problème, c'est quoi? C'est que tu dois arrêter d'essayer de chercher des clients, en fait, pour ton business, parce que tu n'as pas de business, tu dois... En fait, ton business n'existe pas tant que tu n'as pas trouvé un client. Et donc, un client, en fait, tu dois arrêter de te dire, bon, bah, je dois faire de la prospection, je sais pas quoi, etc. Tu dois passer par des trucs beaucoup plus simples. Qu'est-ce que je peux aider? Et peut-être que parfois, à un moment, tu aideras tellement bien quelqu'un qu'il aura envie de te payer. Et moi, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Voilà. Et je n'étais pas en train de me dire, bon, ah, c'est bon, je vais faire du Facebook Ads, désormais, il est l'heure de retrouver mes clients. Non. J'ai trouvé un mec qui voulait faire du Facebook Ads, j'ai appris à faire du Facebook Ads, je l'ai fait gratuitement, et quand c'était assez bien, je lui ai demandé de me payer, il a accepté, puis ça m'a permis de le faire payer par d'autres personnes, etc. Blablabla. Antoine Godefroy me demande mon avis sur Bitcoin. Malheureusement, je suis désolé, j'ai absolument aucune, ni connaissance ni légitimité pour parler de ça. Désolé Antoine, c'est Antoine de Slick. Mon avis sur les entrepreneurs crypto, Lambo, Gucci de Dubaï. Alors, je ne vais pas sombrer dans le classique Dubaï trashing. Je pense que normalement, si vous avez regardé la vidéo manifeste entrepreneurial, vous savez que voilà, moi j'ai un avis qui est un peu plus mesuré sur ces personnes-là. Je pense qu'elles n'ont pas tous les défauts qu'on leur prête. Le seul truc qui me dérange là-dedans et la raison pour laquelle je ne le ferai pas, c'est, je vous ai dit, c'est l'optimisation sans contrainte pour l'argent, qui en fait aujourd'hui, selon moi, est une marque un peu d'immaturité et typiquement d'avoir priorisé un moyen et pas une fin. Donc, en gros, quand on prend dans sa vie toutes les décisions pour l'argent, on n'est pas plus avancé sur quoi faire de cet argent. Et on pense en fait que c'est évident, qu'on va pouvoir s'offrir tous ces trucs que tu donnes, hein, dans ton truc, là, Lambo, Gucci, tu te dis, bon, en fait, non, mais j'ai juste besoin d'avoir de l'argent, t'inquiète, après, je saurai comment le dépenser. Mais en fait, non. Construire une vie qui te remplit d'épanouissement, c'est une discipline différente à gagner de l'argent. C'est deux choses à côté. Et l'un et l'autre peuvent s'alimenter. C'est beaucoup plus facile quand tu es heureux de gagner de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent et que tu sais déjà un petit peu comment être heureux, c'est plus facile d'investir ton argent dans ce qui te rend heureux. Et tu te rends compte aussi qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas accélérer avec de l'argent. J'adore ce que Naval dit. Tu peux t'acheter une maison, mais tu ne peux pas t'acheter un foyer. Tu peux t'acheter du sexe, mais tu ne peux pas t'acheter l'amour d'une personne. Et donc, tous ces trucs-là, pour moi, c'est ça les vrais trucs qui font que sur ton lit de mort, tu vois, tu es content. Tu dis, OK, bon, bah, j'ai aimé, j'ai construit quelque chose, une famille. Tu te dis, en fait, sur ton lit de mort, je ne vois pas beaucoup de personnes qui se disent, putain, j'aurais dû gagner plus d'argent. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est immature. C'est juste ça, c'est que c'est immature, mais après, bon, ouais, c'est fine, on est tous immatures à notre façon. J'ai aussi tous mes plein de pans d'immaturité. Mais moi, j'essaie de les résoudre. Et en fait, voilà, je pense que la différence, c'est pas forcément entre les entrepreneurs crypto Dubaï, mes couilles, et les start-upers et tout. C'est sur les gens qui se posent la question de ce qu'une aventure entrepreneuriale peut produire comme effet bénéfique sur, sur l'échelle de la courte vie qui leur a été accordée. Voilà. Comment apprendre à être discipliné? Deux choses qui sont liées. La discipline s'acquiert. Donc la discipline, c'est souvent, ça va être, on va dire, s'imposer des trucs que t'as pas envie de faire. Donc on devient, je pense que la clé de ça, et la raison pour laquelle si peu de personnes sont disciplinées, c'est que ça implique de commencer beaucoup plus petit que ce que vous pensez. Donc vous imaginez le truc le plus petit que vous puissiez faire, vous divisez par deux, et c'est probablement la première chose que vous devriez faire dans cette discipline. Donc là, probablement, c'est que en écrivant cette question, Adrien, tu te dis, bon, j'aimerais aller faire mes 4 séances de sport par semaine, mais j'arrive pas à avoir la discipline. J'aimerais travailler à 8 heures, mais j'arrive pas à avoir la discipline. En fait, ça, c'est... Et c'est pour ça que ça s'improvise pas, ce genre de choses-là, et que quelqu'un qui, ça fait 4 ans qu'il travaille sur lui-même, va défoncer tous les jours, en termes de discipline et tout, quelqu'un qui vient juste de s'y mettre. Tu peux pas, hop, claquer les doigts et être bon. C'est exactement comme un sport. Donc pour ça, il faut accepter que avant la ceinture noire vient la ceinture blanche. Donc tu dois commencer à apprendre à être discipliné sur des petits trucs. Et c'est pour ça que... Alors, on va prendre un exemple. Les gens les plus disciplinés de ce monde, je pense que c'est les militaires. Les militaires, un des premiers trucs qu'on leur apprend quand ils font leur classe, c'est à refaire leur lit. Ben voilà. Refaire leur lit, c'est ta première prise de contrôle sur toi-même. C'est la première discipline en commençant la journée. Si tu refais pas ton lit, comment tu veux passer au challenge plus gros derrière? Voilà. Donc, je pense que ça implique de commencer petit. Et je vous avais dit, j'avais un deuxième truc, c'est quoi? C'est surtout transformer le plus vite possible la discipline en habitude. Donc, utiliser en fait toute la force de volonté disciplinaire que tu vas mettre en place pour créer des petits rituels qui font que tu vas pas avoir la réemployer. Donc, tu vas te. Enfin, voilà, ça sera tellement ancré dans tes habitudes que t'as plus besoin de le faire. Voilà, ça, tu n'y accordes plus de bande passante mentale. Et j'essaie, en fait, en même temps que je parle, de vous trouver un exemple de truc de discipline transformée en habitude. Ouais, bon, j'en ai pas, mais vous avez compris, je pense. Voilà. Ok, bon, et après, il y a des questions un peu sur méta, j'ai un peu la flemme, c'est pas le bon endroit. Mon avis sur le match Doumbé-Baki. Alors, je l'ai regardé dans un bar, et franchement, j'ai passé un super moment, parce que c'est là où je me suis rendu compte que la promo, ça marche. La promo, en fait, bon, certes, ça a donné envie aux gens de regarder le combat, mais ça fait qu'on la regardait avec des frissons. Ça m'a fait un peu pareil quand j'ai regardé Benoît Saint-Denis, malheureusement, c'est un mec KO samedi soir. C'est que, quand tu développes un lien émotionnel avec, soit l'issue du combat, pardon, voilà, c'est le Vietnamien d'avant, là. J'ai mangé du Vietnamien. Voilà, je vous ai donné un petit Roland. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, quand tu développes un lien émotionnel avec soit l'issue d'un combat ou d'un match, ça peut être pareil pour la Coupe du Monde de foot, c'est la même chose, ou avec l'un des combattants, tu vibres. Et donc, pendant ce match-là, j'ai vibré. Alors que, bon, je suis pas un fan de Doumbé, je suis pas un fan de Baké non plus, mais j'ai bien aimé l'enjeu de ce combat. Ça m'a plu. Donc, après mon avis sur le match Doumbé-Baki. Bon, j'ai trouvé ça étrange. J'étais évidemment très déçu que le combat s'arrête. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu humoristique comme fin. En fait, parce que pour ceux qui n'ont pas maté le combat, en gros, Doumbé s'est foutu une écharpe dans le pied parce qu'ils avaient mal aspiré la cage. Et du coup, ça l'a gêné, il ne voulait pas continuer. Alors, je comprends en premier lieu que n'importe quelle chose qui peut te gêner dans un combat, en fait, ça joue tellement à peu de choses. Le MMA, et vous voyez, hein, Benoît Saint-Denis, il avait une infection. Là-dessus, c'est pas juste vous allez perdre le match et vous allez vous faire mettre KO devant toute la planète. Quand tu as le moindre petit truc qui te gêne, t'as envie d'être en pleine position de tes moyens. Alors, malheureusement, là où je trouve que c'est pas, que c'est humoristique, en fait, c'est que c'est quand même quelqu'un qui vient de prendre des patates pendant 2 rounds et qui, se plaint d'une écharde. Donc, je me demande, en fait, est-ce que tous les combattants auraient réagi comme ça en se foutant une écharde dans le pied? Je sais pas. Je sais pas. Et en fait, on peut pas vraiment se cacher derrière le fait que ils connaissaient pas les règles. Ah, mais je voulais leur tirer, etc. Tu sais très bien qu'en fait, tu peux pas retirer une écharde de ton yep. Donc, en fait, quand tu te mets une écharde, alors je dis pas que j'aurais été capable de, pas été, enfin, que j'aurais été capable de le faire. Hein. Je suis pas combattant et je suis pas, certainement pas plus dur mentalement ou physiquement que les deux personnes qui sont dans cette cage. Mais en tout cas, tu sais que l'écharpe va pas se retirer. Donc, en fait, finalement, t'as une écharpe dans le pied, t'as une écharpe dans le pied. Voilà. Donc, ça continue comme ça. Et tu peux pas, en fait, c'est un signe de déconcentration. Je vois ça en fait comme un tennisman qui commence à insulter quelqu'un dans le public. En effet, oui, là, peut-être que la personne dans le public n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait, de mal parler et tout, etc. Mais Roger Federer, il discute pas avec les gens dans le public, même quand ça lui gueule dessus. Voilà, donc ce combat était un peu étrange, mais j'espère qu'ils vont le refaire. Voilà. Thomas Billot. Comment gérer son entrée sur le marché avec son MVP sur le plan produit et commercial? Bon, alors, les amis, il faut vraiment pas poser des questions sur lesquelles j'ai pas de légitimité, ni même d'expérience. Son MVP sur le plan produit et commercial, j'ai pas lancé de produit, moi, les amis. Et commercial, lancer, gérer son entrée sur le marché. Alors, j'imagine que c'est un challenge que tu as et que tu attends mon input dessus. Gérer son entrée sur le marché avec son MVP, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Donc je ne peux donner que des choses de bon sens, mais en fait, à ma place, je n'aurais pas écouté quelqu'un avec mon niveau d'expérience. Donc Thomas, je t'embrasse, mais je ne vais pas pouvoir donner de réponse là-dessus. Mon avis sur la nutrition. Ah, je suis content, je préfère parler de ça. Donc la nutrition, bon, sous-côté. Sous-côté, évidemment pas juste dans une optique sportive de perdre de gras et d'avoir des abdos. Mais en fait, quand tu vois la bouffe comme du carburant, comme dans une entreprise, une automobile, une voiture, c'est ça que je voulais dire. Et tu te dis, je mets pas de la pisse dans une belle bagnole si je veux qu'elle fonctionne bien. Eh bien, la nutrition, c'est la même chose. En fait, on peut pas croire que on peut, en tant que sportif de haut niveau que nous sommes du business, voilà, du travail, on peut pas croire qu'on peut performer au top de notre au top level et manger de la merde. En fait, ça a un impact direct sur ton humeur, ça a un impact sur ta clarté d'esprit, ça a un impact sur comment tu te sens, comment tu dors. Enfin, la nutrition, c'est sous-côté, je trouve, dans une optique de performance entrepreneuriale. Et ça, j'entends pas beaucoup de gens en parler. Donc, c'est très simple. Hein. Donc, c'est manger des légumes. Manger légumes et fruits, déjà. Moi, ces trucs, j'arrive pas bien à faire. Manger vos protéines. Et en fait, vous essayez juste de respecter plus ou moins les AGR, les apports journaliers. Vous bouffez pas trop. Vous faites pas. Moi, j'évite les glucides le midi trop fort parce qu'après, je suis KO. Et donc, le pic glycémique, c'est un vrai truc. Que j'avais déjà d'ailleurs regardé un petit peu Glucose Goddess qui disait qu'il fallait manger les légumes d'abord. Donc maintenant, je fais toujours très, très attention à bouffer ma salade avant de grailler la protéine, avant de grailler le glucide. Et tous ces petits trucs-là sont super importants. Donc la nutrition, voilà, c'est surtout important parce que derrière ça va avoir un gros impact sur le sommeil, la santé et tout, et donc c'est sous-côté. Voilà. Mon avis sur mon niveau en padel, si t'en fais encore. Ouais, je suis claqué du cul au padel. J'étais pas trop mauvais au tennis. Padel, j'ai pas un très gros niveau. Et surtout, j'ai pas trop le temps d'y jouer. J'ai du mal à mettre dans les priorités, mais vous savez, là, c'est marathon. On a Jokaris qui me demande mon avis sur l'écharde. J'ai donné mon avis. Mathieu Pimor qui dit la coupe de cheveux la plus héroïste. Bon voilà, il en rate pas une, ce petit salaud. Et en effet, je suis allé chez le coiffeur. Ma nouvelle coupe. Putain, vous fatiguez. La défaite de Doumbé encore. Oula. Créer un changement systémique en 12 étapes. Pourquoi pas 12 après tout? Ouais, je passe. Hein. Comment construire sa ligne édito de podcast d'interview pour développer son business? Très, très, très intéressant, ça. Donc, c'est Thibaut Fourcade qui demande, qui a un podcast. Alors, comment développer sa ligne édito de podcast d'interview pour développer son business? Bon, il y a plusieurs choses qui sont utiles dans un podcast. En gros, qu'est-ce qui est stylé avec un podcast? C'est l'autorité d'association. Donc, en gros, tu vas... l'aura de ton invité va rayonner sur toi de façon inconsciente envers ton audience. Donc, en gros, c'est pour ça que tu prends un random péon sur YouTube, tu le fais recevoir Kylian Mbappé, tu vas dire, attends, c'est un mec qui a le réseau, le network, je sais pas quoi, pour avoir Mbappé. Il suffit qu'en plus il ait une conversation intéressante, et là, bon, bah, bingo. Donc, tu vas avoir une crédibilité d'association qui est énorme. Le problème du podcast, c'est aussi pour ça qu'il faut se méfier de toute awareness qui est générée avec. Ça compte pas pareil que d'autres types de contenus qui sont plus centrés sur le créateur lui-même, c'est que les gens viennent quand même consommer l'invité de podcast. Ils viennent pas consommer le podcasteur. Donc, il faut faire très attention. Il faut réussir à exister dans son format podcast. Donc, pour moi, l'histoire de construire sa ligne édito de podcast d'interview, c'est attirer des gens, c'est très sympa, qui sont admirés par les gens de ton audience. Donc, je sais pas qui exactement tu veux cibler. Moi, pour des e-commerçants, bah, j'ai juste à recevoir des e-commerçants plus gros que les e-commerçants que je veux cibler. Et ensuite, il faut être capable d'exister dans le format que tu as avec eux. Donc, ça veut dire de les challenger et en fait d'élever le niveau de la discussion. Il faut que les gens, quand ils sortent du podcast, ils se disent « Putain, je suis content d'avoir vu cet invité. Je suis aussi très content qu'il ait été interviewé par le podcasteur. » Et c'est un truc que moderne, enfin le gars de Modern Wisdom, là, Chris Williamson, fait très bien. Je trouve qu'il est capable de recevoir des invités qui ont été reçus partout et leur faire dire les trucs les plus intéressants parce qu'il a taffé chacune de leurs opinions. Il a un peu, il passe très très vite sur la doxa, donc sur la question classique. Il va vite en profondeur dans des questions. Il trouve un peu les paradoxes. Ça se construit comme une dissertation, en fait. Je trouve un épisode de podcast. C'est pour ça qu'il y a une vraie discipline qui est d'être un podcasteur. Donc de préparer son truc pour faire des trucs intéressants là-dessus. Et donc, l'inédito de podcast, voilà, moi je dirais que c'est trouver des invités avec lesquels tu es capable d'exister aussi. Et c'est ça en fait qui va déterminer quel type d'invité tu vas pouvoir recevoir. Donc, par exemple, moi je suis capable d'exister avec des entrepreneurs qui même sont plus gros que moi dans une discussion. Mais par contre, j'aurais peut-être plus de mal à exister si je recevais, je sais pas, un philosophe. Alors que ça pourrait être très intéressant. Ou un sportif. Et c'est pour ça que voilà, c'est ça en fait qui crée les lignes éditoriales, c'est avec qui Thibaut, en particulier, va être capable de faire un match, quoi. C'est comme un featuring en rap. C'est avant tout deux personnes qui s'associent pour faire un son. Mais il y a quand même un peu un esprit de compétition. C'est ce que le podcasteur va réussir à challenger l'invité. Voilà. Alors, c'est marrant que j'en ai déjà parlé, mais la tisane n'étanche pas la soif. Donc, je vais boire quand même un peu d'eau. Heureusement, j'ai prévu mes dispositions. On continue les questions. 22h19. Je vais me coucher dans une dizaine de minutes pour respecter mes habitudes. 1h06, ça fera un bon épisode. Alors. Bonjour. Alors, c'est marrant. Alors, c'est encore quelque chose sur l'écharde, mais c'est dit un peu différemment. C'est Rémi Botwin qui demande bonjour sur l'impact de l'écharde sur la marque personnelle de Cédric Doumbé. Alors, le truc, c'est que je ne suis pas allé voir sa réaction médiatique. J'ai eu quelques blagues qui étaient sorties. Notamment un tweet que j'ai trouvé hilarant où il disait tout le monde a un plan avant de prendre une écharpe dans le pied ou un truc un peu similaire qui est génial, donc il est quand même très fort médiatiquement, en marketing il est bon, mais je trouve que en fait c'est pas si problématique que ça de perdre comme ça, parce que déjà il y a personne qui va dire il a perdu, mais personne va dire il s'est fait battre. Et je pense que s'il y a un rematch, il faut vraiment qu'il arrive à avoir son rematch. S'il y a un rematch qui gagne, on se rappellera plus beaucoup, en fait, de ce genre de petites défaites. Et vous, enfin, ce qui est important, c'est surtout la suite de l'histoire. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment remis en cause tout le personnage de Doumbé. Il s'est pas fait éteindre. Il est pas, en fait, il peut continuer à dire les trucs qu'il disait avant. Juste, par contre, il va falloir qu'il change un petit peu. Et qui l'adresse, en fait, voilà, il a pas vraiment ignoré ce truc là, enfin le truc de l'écharde là. Il faut surtout pas qu'il le fasse, enfin, voilà, faut qu'il continue à bien prendre en compte que bon, bah, c'est une situation un peu ridicule, mais qu'il veut corriger le tir. Et je pense qu'une victoire derrière, à condition qu'il arrive à avoir son rematch, mais bon, Baki avait l'air de dire qu'il voulait le refaire, et bien pourra rattraper son truc. Mais c'est une problématique qui médiatiquement est intéressante parce que c'est une défaite, mais c'est pas une défaite qui remet en cause sa marque personnelle en particulier, c'est juste que ça lui fait perdre du temps. Est-ce qu'on peut lancer un business en voulant principalement gagner de l'argent? Bah oui, c'est même une très bonne raison de lancer un business. C'est même un truc qui t'assure de gagner de l'argent, de que ça se passe bien, hein, parce que c'est quand même le but d'un business, c'est de gagner de l'argent et donc de faire gagner de l'argent à son fondateur. Donc oui, ça marche très bien. Mais après, la question, c'est oui, est-ce que c'est un truc qui va t'épanouir? Mais c'est deux sujets différents et tu peux totalement accepter de ne pas jouer à ce jeu-là. Hein, c'est fine. Pourquoi les podcasts aux US, notamment business, marchent mieux qu'en France? Bon, alors, je vais dire un truc très très simple, c'est juste le marché adressable. Combien y a de gens qui parlent anglais versus combien de gens parlent français? Et selon moi, c'est 80% de ce qui explique ce truc-là. Voilà. C'est tout. Encore une question même de Thibaut, du coup. Les conséquences de la Splintergate sur l'image de marque de Cédric? Déjà répondu. Qu'est-ce qui permet de scaler rapidement comme freelance en SMMA? Oh putain. Freelance en SMMA. Alors je suis convaincu déjà que dans cette question, tu ne sais pas ce que veut dire SMMA. Et en plus, tu as employé le mot SMMA. SMMA, c'est ta bannière. Venez pas de parler de SMMA, moi je ne fais pas d'SMMA, d'accord? Qu'est-ce qui permet de scaler rapidement de freelance en SMMA? Donc, je vais dire que, on va imaginer que tu as écrit de freelance en agence, tu veux me poser cette question. Et ce qui permet de scaler, c'est les sales. Je t'ai expliqué dans la masterclass agence, c'est les sales. C'est apprendre à vendre à beaucoup de personnes. Donc, trouver un canal d'acquisition et une façon de closer, les leads qui sortent de ce canal d'acquisition, qui est scalable et possiblement derrière délégable à quelqu'un. Voilà. Mon avis sur... Alors, tu as écrit la médiation. Peut-être que c'était la méditation. Mon avis sur la médiation... Bon, on va dire méditation, parce que la médiation, je ne suis pas trop sûr de savoir. Je n'ai pas eu de conflit qu'aujourd'hui on ait cité médiation. Voilà, mais de la méditation, bon, la méditation c'est génial, la méditation c'est un bouclier, c'est comme prendre des points de bouclier dans un jeu vidéo, c'est ouf. Vous rechargez les batteries, puis en fait voilà, vous arrivez à prendre du recul, ça ne vous rend pas invincible, mais c'est juste que ça vous permet de que les premières attaques à votre paix d'esprit, votre clarté, soient directement effacées au prix de quelques points de bouclier que vous avez construits en méditant depuis longtemps. Voilà, donc plus vous méditez longtemps, plus votre armure elle est costaud. Voilà. Alors, à ton avis, pourquoi le sujet de l'argent et de la réussite est aussi tabou en France vs les US ? Alors moi, je trouve que justement, c'est tabou en grand public, mais en fait, les Français parlent quand même beaucoup d'argent, justement. C'est précisément parce que les Français, je pense, parlent énormément d'argent et sont très mal à l'aise avec le... Enfin, ils sont rarement contents des revenus qu'ils en touchent, ils sont très complexés par le truc, que le truc est si peu présent dans la sphère publique. Je trouve que c'est en train de changer, quand même. Il y a de... En fait, la principale... C'est toujours la même raison, hein. c'est depuis des dizaines d'années en France, voire même des centaines. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est pas de l'argent, c'est comment est-ce qu'on pense que les gens gagnent de l'argent. Et donc aujourd'hui, si vous prenez la masse, le français moyen, de manière générale, qui prend quelqu'un de riche, il est jaloux. Il pense qu'il a du mal, en fait, il accepte pas que des gens puissent être meilleurs que lui. Et donc, son premier effet, ça va pas être de dire bon, cette personne-là, elle a fait un truc stylé, c'est de se dire. Quels sont les privilèges que la personne riche que j'ai en face de moi a et qui font que il est devenu riche et moi je ne le deviendrai pas. Donc là, il faut trouver, c'est beaucoup plus en fait confortable. C'est l'équivalent de trouver des excuses. Donc tout ça crée un genre de haine qu'on ne peut pas, c'est de la mauvaise foi, hein, donc la mauvaise foi, tu peux pas la combattre. C'est le Raptor, hein, qu'on parlait très bien dans son dernier épisode de podcast. Je suis absolument d'accord avec lui, ça sert à rien de discuter avec les gens, voilà, qui sont très embrigadés intellectuellement, et donc il faut en fait, mais il y a quand même ce que je veux dire simplement, c'est pourquoi est-ce que je trouve que ça évolue en France, c'est parce qu'il y a une certaine sphère qui la sphère make money d'ailleurs a démocratisé ça, je trouve, ça a libéré la parole sur le fait que ok, c'est fine, les gens ils ont envie de gagner de l'argent et il y a pas de mal à ça, quoi. Et donc je trouve qu'il y a cette sphère aujourd'hui, il y a du contenu maintenant sur YouTube, il y a du make money, quoi, du contenu comment gagner de l'argent. C'est un truc qui n'existait pas vraiment avant. Donc c'est pour ça que je trouve que ça se démocratise quand même. Et c'est très inspiré de la pensée américaine. Et alors après, pourquoi est-ce que je connais pas bien la relation des Américains avec l'argent. Je sais que juste il y a plus de, c'est plus dans la culture, quoi. C'est on idolâtre plus les gens qui ont gagné de l'argent de manière générale, plutôt que de dire ah le vilain millionnaire, quoi. Mais ouais, bon, après ça va avec un certain lot de défauts dans la culture américaine, c'est une culture justement qui est très 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 axée sur l'argent, et donc le code éthique qui est associé à ça est un peu différent. Vous savez, quand une boîte ouvre aux US, une boîte française ou une boîte étrangère, il y a un budget dans les business plans qui est prévu, c'est pour les lawsuits, donc les gens qui vont t'attaquer pour gagner de l'argent, parce que c'est ça la dictature. Voilà, donc c'est un business qui, du coup, en fait, comme il y a un peu moins de sentiments, parce que les Français, on aime bien mettre un peu de sentiments, mettre un peu de morale dans le gain d'argent, on fait moins de coups bas que les Américains. Moins de coups bas qui sont perçus comme être éthiques. Voilà. Bon, les potes, ça fait 1h13. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tranquillou. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu écouter ça tranquillou, voilà, en faisant la vaisselle, en marchant, en courant, à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres... situation dans laquelle vous écoutez ce podcast, je ne sais pas, je pense que c'est les principales. Ou alors, pas en travaillant, je pense que c'est un peu compliqué de se concentrer. N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur le podcast. On revient la semaine prochaine avec un épisode très, 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 très dodu que j'aurai bien eu le temps de préparer. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce hors-série Retout et Mion FAQ. Bisous!